Benjamin Netanyahou a menacé le Hamas en cas de non-libération d'otages avant samedi de la reprise éventuelle des combats à Gaza. Cela inquiète les Israéliens. Lise, vous aviez envie d'en parler avec notre invité Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Donc, une période un peu compliquée en ce moment après cette annonce du Hamas de ne pas faire les libérations d'otages prévues samedi et l'ultimatum lancé par Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement, Raphaël ? Est-ce que vous croyez que les combats vont reprendre ce week-end à Gaza ?
Alors, il est difficile de savoir ce qui va se passer parce que ça commence à ressembler sérieusement à une mauvaise partie de poker où tout le monde bluffe tout le monde, à savoir jusqu'où on peut pousser le bluff. Alors ça commence par le bluff du Hamas, qui a soi-disant durci ses positions, mais en fait c'était un mini-bluff parce que le Hamas donnait du temps, quelques jours, pour réparer la situation et ne sortait pas de l'accord en cours de la première phase. Malheureusement, ça a été mal interprété. Et c'était un des énervements auxquels il ne fallait peut-être pas céder, les agacements que cause le Hamas. Donald Trump a pris les devants en disant, eh ben, puisque c'est comme ça, et je pense qu'il était sous le choc, comme tout le monde, des images de la libération des trois derniers otages qui montrent à quel point ils sont torturés et maltraités. Et donc Donald Trump a dit, eh bien, maintenant il faut les sortir tous, en quoi il a absolument raison, il faut tout le monde ou personne, car cet accord est un mauvais accord. Il n'est pas question de continuer ce compte-gouttes ridicule, puisqu'à chaque fois le Hamas en profite pour mettre des bâtons dans les roues à ce qui est en train de se passer. De là, évidemment, Benjamin Netanyahu suit les consignes et l'attitude de Trump. Il n'a pas vraiment le choix non plus. Et donc, il dit effectivement, puisqu'il y a un ultimatum, si cet ultimatum n'est pas respecté, ça veut dire que l'accord tombe à l'eau. Si l'accord tombe à l'eau, eh bien, les combats reprennent, l'offensive reprend. Alors, entre-temps, il y a pas mal de pression qu'Israël peut exercer sur le Hamas. La première, c'est couper l'aide humanitaire. La seconde, c'est reprendre l'axe de Netzarim que Tsahal venait d'évacuer. Effectivement, la troisième, c'est la reprise des combats. Donc, tout cela devrait inquiéter fortement le Hamas, car si Israël reprend les combats, cette fois-ci, ce sera avec la bénédiction de Donald Trump et des bombes et des armements que Joe Biden n'avait pas voulu donner aux Israéliens et que Donald Trump leur donne pour comme il le dit en ses propres termes, que ce soit l'enfer pour le Hamas à Gaza. Malheureusement, ce sera aussi l'enfer pour le reste des habitants de Gaza, d'où la bonne idée, effectivement, de les évacuer de ces zones de combat et de leur offrir un abri meilleur dans un endroit un peu plus hospitalier, oserais-je dire. En tous les cas, en ce moment, c'est très très triste pour les otages. Les otages deviennent des pions sur un jeu extrêmement dangereux et on a tendance à beaucoup trop parler, beaucoup trop dire des choses, comme je le dis, qui sont parfois des bluffs. Et ça se fait évidemment aux dépens de la libération des otages.
Alors cet ultimatum, Raphaël, on l'a compris, est-ce que ça concerne bien tous les otages et pas seulement les trois qui auraient dû être libérés ce samedi ?
D'après ce que je comprends, il s'agit de tous les otages vivants. Donald Trump, depuis le départ, je suis assez d'accord avec lui là-dessus, depuis le départ, ne pense pas qu'on arrivera à faire toutes les phases, que ça prend beaucoup trop de temps, c'est beaucoup trop compliqué. Première phase, deuxième phase, les sous-phases, les entre-phases, c'est un accord qui est beaucoup trop compliqué pour marcher, d'autant plus qu'on sait très bien qu'à chaque fois, et on le voit, à chaque fois le Hamas va trouver à redire à ce que les Israéliens ont fait ou n'ont pas fait, à chercher une virgule ou un point-virgule dans l'accord pour ne pas respecter. Jusqu'à aujourd'hui, je rappelle que ceux qui ne respectent pas du tout l'accord, c'est le Hamas, qui d'une part n'ont pas donné la liste de qui est vivant et qui ne l'est pas, qui d'autre part ne nous éclaire pas du tout sur le sort de la famille Bibas, des bébés et de la maman, et qui en plus nous remet des otages en très 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 mauvais état, et avec, pour la dernière fois, encore une fois, une cérémonie de fanfaronnade ridicule qu'on leur avait demandé de s'abstenir de faire. Et donc, ils passent leur temps à vouloir saboter cet accord. Je pense que malheureusement, ils n'ont pas l'intention de passer à la deuxième phase. Et à mon avis, Benjamin Netanyahu et son gouvernement non plus. Je ne pense pas qu'il y ait ici une possibilité de continuer sereinement cet arrangement. Et donc, la seule solution, c'est de poser un ultimatum qui aurait dû être l'ultimatum d'Adair depuis le début. C'est tout le monde ou personne, ça veut dire. Tant que vous ne rendez pas tous les otages, eh bien, offensive militaire, suppression de l'aide humanitaire, etc.
Est-ce que ça signifie, Raphaël Jérusalemi, que le Hamas a tout de même les moyens de répliquer, de nouveau envoyer les Israéliens dans les abris avec des roquettes, ou ça va être beaucoup moins dangereux, même s'il y a une reprise des combats?
Ça sera beaucoup moins dangereux. Il reste que des roquettes, mais pas beaucoup, et surtout pas de rampe de lancement suffisamment pour inquiéter véritablement Israël. Il se peut qu'il y ait encore dans l'arsenal du Hamas quelques roquettes. Il y a encore des terroristes, il y a encore des combattants. Et donc, il y a encore beaucoup de travail sur le plan militaire, bien que le Hamas soit extrêmement affaibli. Mais il ne fonctionne plus comme il l'était auparavant, comme une armée avec une chaîne de commandement et une chaîne de communication en bonne et due forme. Les fanfaronnades que l'on voit dans la libération des otages, ce n'est jamais que quelques dizaines de personnes habillés dans des uniformes qu'on peut acheter dans un magasin de farce et attrape pour quand on va au carnaval. Donc il ne faut pas se laisser impressionner. Le Hamas est affaibli. Le Hamas ne peut pas faire face à une nouvelle offensive de Tsahal. Et cette fois-ci, il est évident que sur le plan politique, avec l'appui américain et avec le gouvernement actuel en Israël, l'offensive qui va démarrer, il y aura aussi un nouveau chef de l'état-major, sera une offensive encore plus violente, encore plus fracassante, contre le Hamas, avec cette fois-ci un objectif, puisqu'on aura ce désespoir, malheureusement, de la situation des otages, un objectif de pas de quartier et d'aller cette fois-ci jusqu'au bout.
Est-ce qu'on ne craint pas que les Houthis reviennent sur le devant de la scène et envoient des missiles, justement, si le Hamas n'en a plus suffisamment, Raphaël?
Alors, les Houthis ont menacé, effectivement, ces jours-ci, de revenir à la charge si l'accord de libération des otages tombait à l'eau. Je le souhaite personnellement. Je pense qu'on a tort de laisser les Houthis tranquilles lorsqu'ils ne tirent pas et de ne les attaquer que lorsqu'ils tirent. C'est le moment et la coalition internationale, la France vient de s'enorgueillir, l'armée française, d'avoir abattu des drones des Houthis avec les Mirages français. Et je pense que c'est le moment pour la coalition de frapper les Houthis comme il faut, puisqu'il menace le commerce maritime mondial. Et donc, je souhaite secrètement, qu'il commence à frapper, parce que le retour de bâton sera tel qu'ils le regretteront amèrement.
Ma dernière question, Raphaël Jérusalemi, est-ce que le Hamas, devant les menaces de Benjamin Netanyahou, peut reculer et finalement libérer les trois otages samedi? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que Israël fera?
Je pense que tout va dépendre maintenant de ce qu'on appelle les négociateurs, c'est-à-dire les intermédiaires de l'Égypte et du Qatar. Ça va énormément dépendre d'eux. Comme je l'ai dit, tout le monde est en train de bluffer tout le monde. Le Hamas, qui avait bluffé au départ, parce que je pense pas qu'il voulait sortir à ce stade-là de l'accord, parce qu'ils avaient encore beaucoup à gagner de la libération, ça leur apporte beaucoup. À chaque fois qu'ils libèrent trois otages, ils reçoivent des centaines de camions d'aide humanitaire, ils libèrent des dizaines et des dizaines de terroristes, etc. Et donc, ils sont perdants. Je pense qu'ils regrettent amèrement le fait que Donald Trump ait réagi si vite à leur bluff, par un autre bluff, qui à mon avis c'est aussi un bluff, parce que je ne vois pas très bien ce qu'il peut faire s'il n'envoie pas l'armée américaine, je ne vois pas très bien ce qu'il peut faire d'autre. Et puis le dernier, c'est Benjamin Netanyahu. Et on est donc maintenant, comme je l'ai dit, dans une partie de poker où personne en fait ne veut vraiment s'avancer là où il s'est avancé, à savoir comment on va pouvoir maintenant faire marche arrière et revenir peut-être à quand même une poursuite, même si elle est temporaire, de cette libération au compte-gouttes des otages, car nul ne croit, ne pense sincèrement que cet ultimatum va fonctionner. Le Hamas, même Trump l'a dit d'ailleurs, il a dit « je ne crois pas que le Hamas, samedi midi, va nous donner les otages ». Il en est bien conscient.
Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal, d'avoir été avec nous ce matin pour cette analyse. Bonne journée à vous, à très vite.
Bonne journée.